Isidore du Casse, Comte de Lautréamont. Poésie 1. Je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du calme et l'orgueil par la modestie. Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes. Les premiers principes doivent être hors de discussion. J'accepte Euripide et Sophocle, mais je n'accepte pas Eschyle. Ne faites pas preuve de manque des convenances les plus élémentaires et de mauvais goût envers le Créateur. Repoussez l'incrédulité, vous me ferez plaisir. Il n'existe pas de genre de poésie, il n'en est qu'une. Il existe une convention peu tacite entre l'auteur et le lecteur, par laquelle le premier s'intitule malade, accepte le second comme garde-malade. C'est le poète qui console l'humanité. Les rôles sont intervertis arbitrairement. Je ne veux pas être flétri de la qualification de poseur. Non, je ne laisserai pas des mémoires. La poésie n'est pas la tempête, pas plus que le cyclone. C'est un fleuve majestueux et fertile. Ce n'est qu'en admettant la nuit physiquement qu'on est parvenu à la faire passer moralement. « Aux nuits d'Jung, vous m'avez causé beaucoup de migraines. On ne rêve que lorsque l'on dort. Ce sont des mots comme celui de rêve, néant de la vie, passage terrestre, la préposition peut-être, le trépied désordonné, qui ont infiltré dans vos âmes cette poésie moite des langueurs, pareille à de la pourriture. Passer des morts aux idées, il n'y a qu'un pas. » Les perturbations, les anxiétés, les dépravations, la mort, les exceptions dans l'ordre physique ou moral, l'esprit de négation, les abrutissements, les hallucinations servies par la volonté, les tourments, la destruction, les renversements, les larmes, les insatiabilités, les asservissements, les imaginations creusantes, les romans, ce qui est inattendu, ce qu'il ne faut pas faire, les singularités chimiques du retour mystérieux qui guettent les charognes de quelque illusion morte, les expériences précoces et avortées, les obscurités à carapace de punaise, la monomanie terrible de l'orgueil, l'inoculation des stupeurs profondes, les oraisons funèbres, les envies, les trahisons, les tyrannies, les impiétés, les irritations, les acrimonies, les incartades agressives, la démence, le spleen, les épouvantements raisonnés, les inquiétudes étranges que le lecteur préférerait ne pas éprouver, les grimaces, les névroses, les filières sanglantes par lesquelles on fait passer la logique aux abois, les exagérations, l'absence de sincérité, les sues, les platitudes, le sombre, le lugubre, les enfantements pires que les meurtres, les passions, le clan des romanciers de cour d'assises, les tragédies, les odes, les mélodrames, les extrêmes présentés à perpétuité, la raison impunément sifflée, les odeurs de poules mouillées, les affadissements, les grenouilles, les poulpes, les requins, le simoun des déserts, ce qui est somnambule, louche, nocturne, somnifère, noctambule, visqueux, phoque, parlant, équivoque, poitrinaire, spasmodique, aphrodisiaque, anémique, borgne, hermaphrodite, bâtard, albinos, pédéraste, phénomène d'aquarium et femme à barbe, les heures saoules du découragement taciturne, les fantaisies, les âcretés, les monstres, les syllogismes démoralisateurs, les ordures, ce qui ne réfléchit pas comme l'enfant, la désolation, ce mancenillier intellectuel, les chances parfumées, les cuisses aux camélias, la culpabilité d'un écrivain qui roule sur la pente du néant et se méprise lui-même avec des cris joyeux, les remords, les hypocrisies, les perspectives vagues qui vous broient dans leurs engrenages imperceptibles, les crachats sérieux sur les axiomes sacrés, la vermine et ses chatouillements insinuants, les préfaces insensées comme celles de Cromwell, de Mademoiselle de Maupin et de Dumas fils, les caducités, les impuissances, les blasphèmes, les asphyxies, les étouffements, les rages, devant ces charniers immondes que je rougis de nommer. Il est temps de réagir enfin contre ce qui nous choque et nous courbe si souverainement. Votre esprit est entraîné perpétuellement hors de ses gonds et surpris dans les pièges des ténèbres, construites avec un art grossier par l'égoïsme et l'amour-propre. Le goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C'est le nec plus ultra de l'intelligence. Ce n'est que par lui seul que le génie est la santé suprême et l'équilibre de toutes les facultés. Villemain est 34 fois plus intelligent que Gensu et Frédéric Soulier. Sa préface du dictionnaire de l'Académie verra la mort des romans de Walter Scott, de Fenimore Cooper, de tous les romans possibles et imaginables. Le roman est un genre faux parce qu'il décrit les passions pour elles-mêmes. La conclusion morale est absente. Décrire les passions n'est rien. Il suffit de naître un peu chacal, un peu vautour, un peu panthère. Nous n'y tenons pas. Les décrire pour les soumettre à une haute moralité, comme Corneille, c'est autre chose. Celui qui s'abstiendra de faire la première chose, tout en restant capable d'admirer et de comprendre ce à qui il est donné de faire la deuxième, surpasse de toute la supériorité des vertus sur les vices, celui qui fait la première. Par cela seul qu'un professeur de seconde se dit « Quand on me donnerait tous les trésors de l'univers, je ne voudrais pas avoir fait des romans pareils à ceux de Balzac et d'Alexandre Dumas. » Par cela seul, il est plus intelligent qu'Alexandre Dumas et Balzac. Par cela seul, qu'un élève de troisième s'est pénétré qu'il ne faut pas chanter les difformités physiques et intellectuelles. Par cela seul, il est plus fort, plus capable, plus intelligent que Victor Hugo, s'il n'avait fait que des romans, des drames et des lettres. Alexandre Dumas fils ne fera jamais, au grand jamais, un discours de distribution des prix pour un lycée. Il ne connaît pas ce que c'est que la morale. Elle ne transige pas. S'il le faisait, il devrait auparavant biffer d'un trait de plume tout ce qu'il a écrit jusqu'ici, en commençant par ses préfaces absurdes. Réunissez un jury d'hommes compétents. Je soutiens qu'un bon élève de seconde est plus fort que lui, dans n'importe quoi, même dans la salle question des courtisanes. Les chefs-d'œuvre de la langue française sont les discours de distribution pour les lycées et les discours académiques. En effet, l'instruction de la jeunesse est peut-être la plus belle expression pratique du devoir. Une bonne appréciation des ouvrages de Voltaire, creusez le mot « appréciation », est préférable à ces ouvrages eux-mêmes, naturellement. Les meilleurs auteurs de romans et de drames dénatureraient à la longue la fameuse idée du bien. Si le corps enseignant, conservatoire du juste, ne retenait les générations jeunes et vieilles dans la voie de l'honnêteté et du travail, en son nom personnel, je malgré elle, il le faut, je viens renier, avec une volonté indomptable et une ténacité de fer, le passé hideux de l'humanité pleurarde. Oui, je veux proclamer le beau sur une lyre d'or, défalcation faite des tristesses goitreuses et des fiertés stupides qui décomposent à sa source la poésie marécageuse de ce siècle. C'est avec les pieds que je foulerai les stances aigres du scepticisme qui n'ont pas leur motif d'être. Le jugement, une fois entré dans l'efflorescence de son énergie, impérieux et résolu, sans balancer une seconde dans les incertitudes dérisoires d'une pitié mal placée, comme un procureur général, fatidiquement les condamne. Il faut veiller sans relâche sur les insomnies purulentes et les cauchemars intrabilaires. Je méprise et j'exècre l'orgueil et les voluptés infâmes d'une ironie faite éteignoire qui déplace la justesse de la pensée. Quelques caractères excessivement intelligents, il n'y a pas lieu que vous l'affirmiez par des malinodies d'un goût douteux, se sont jetés, la tête perdue, dans les bras du mal. C'est l'absinthe savoureuse, ou je ne le crois pas, mais nuisible, qui tua moralement l'auteur de Rolla. Malheur à ceux qui sont gourmands. À peine est-il entré dans l'âge mûr, l'aristocrate anglais, que sa harpe se brise sous les murs de Missolonghi, après m'avoir cueilli sur son passage que les fleurs qui couvrent l'opium des mornes anéantissements. Quoique plus grand que les génies ordinaires, si c'était trouvé de son temps un autre poète doué, comme lui, à des doses semblables, d'une intelligence exceptionnelle et capable de se présenter comme son rival, il aurait avoué le premier l'inutilité de ses efforts pour produire des malédictions disparates, et que le bien exclusif est seul déclaré digne, de par la voix de tous les mondes, de s'approprier notre estime. Le fait fut qu'il n'y eut personne pour le combattre avec avantage. Voilà ce qu'aucun n'a dit. Chose étrange, même en feuilletant les recueils et les livres de son époque, aucun critique n'a songé à mettre en relief le rigoureux syllogisme qui précède. Et ce n'est que celui qui le surpassera qui peut l'avoir inventé. Tant on était rempli de stupeur et d'inquiétude, plutôt que d'admiration réfléchie, devant des ouvrages écrits d'une main perfide, mais qui révélaient cependant les manifestations imposantes d'une âme qui n'appartient pas au vulgaire des hommes, et qui se trouvait à son aise dans les conséquences dernières d'un des deux moins obscurs problèmes qui intéressent les cœurs non solitaires, le bien et le mal. Il n'est pas donné à quiconque d'aborder les extrêmes, soit dans un sens, soit dans un autre. C'est ce qui explique pourquoi, tout en louant sans arrière-pensée l'intelligence merveilleuse dont il dénote à chaque instant la preuve, lui, un des quatre ou cinq phares de l'humanité, l'ont fait en silence ses nombreuses réserves sur les applications et l'emploi injustifiable qu'il en a fait sciemment. Il n'aurait pas dû parcourir les domaines sataniques. La révolte féroce des Tropman, des Napoléon Ier, des Papavoine, des Byron, des Victor Noir et des Charlotte Corday sera contenue à distance de mon regard sévère. Ces grands criminels, à des titres si divers, je les écarte d'un geste. Qui croit-on tromper ici, je le demande, avec une lenteur qui s'interpose. Ô dada de bagne, bulles de savon, pantins en baudruche, ficelles usées. Qui s'approchent, les Conrad, les Manfred, les Lara, les marins qui ressemblent aux corsaires, les Méphistophélès, les Werther, les Don Juan, les Faust, les Iago, les Rodin, les Caligula, les Caïn, les Iridion, les Mégères à l'instar de Colomba, les Ahriman, les Manitou manichéens, barbouillés de cervelle, qui cuvent le sang de leurs victimes dans les pagodes sacrées de l'Hindoustan, le serpent, le crapaud et le crocodile, divinités considérées comme anormales de l'Antique Égypte, les sorciers et les puissances démoniaques du Moyen-Âge, les Prométhées, les titans de la mythologie foudroyés par Jupiter, les dieux méchants vomis par l'imagination primitive des peuples barbares, toute la série bruyante des diables en carton. Avec la certitude de les vaincre, je saisis la cravache de l'indignation et de la concentration qui soupèse, et j'attends ces monstres de pied ferme, comme leur dompteur prévu. Il y a des écrivains ravalés, dangereux, loustiques, farceurs au carteron, sombres mystificateurs, véritables aliénés, qui mériteraient de peupler Bicêtre. Leur tête crétinisante, d'où une tuile a été enlevée, crée des fantômes gigantesques qui descendent au lieu de monter. Exercice scabreux, gymnastique spécieuse. Passez donc, grotesque muscade. S'il vous plaît, retirez-vous de ma présence, fabricateur à la douzaine de rébus défendus, dans lesquels je n'apercevais pas auparavant, du premier coup, comme aujourd'hui, le joint de la solution frivole. Cas pathologique d'un égoïsme formidable, automate fantastique. Indiquez-vous du doigt l'un à l'autre, mes enfants, l'épithète qui les remet à leur place. S'ils existaient sous la réalité plastique quelque part, ils seraient, malgré leur intelligence avérée, mais fourbe, l'opprobre, le fiel des planètes qu'ils habiteraient, la honte. Figurez-vous les uns, un instant, réunis en société avec des substances qui seraient leurs semblables. C'est une succession non interrompue de combats dont ne rêveront pas les bulldogs interdits en France, les requins et les macrocéphales cachalots. Ce sont des torrents de sang dans ces régions chaotiques pleines d'hydres et de minotaures et d'où la colombe effarée sans retour s'enfuit à tire d'aile. C'est un entassement de bêtes apocalyptiques qui n'ignorent pas ce qu'elles font. Ce sont des chocs de passion, d'irréconciliables et d'ambition, à travers les hurlements d'un orgueil qui ne se laisse pas lire, se contient et dont personne ne peut, même approximativement, sonder les écueils et les bas-fonds. Mais il ne m'en impose plus. Souffrir est une faiblesse lorsqu'on peut s'en empêcher et faire quelque chose de mieux. Exhaler les souffrances d'une splendeur non équilibrée, c'est prouver aux moribonds des marèmes perverses moins de résistance et de courage encore. Avec ma voix et ma solennité des grands jours, je te rappelle dans mes foyers déserts, glorieux espoir. Viens t'asseoir à mes côtés, enveloppé du manteau des illusions sur le trépied raisonnable des apaisements. Comme un meuble de rebut, je t'ai chassé de ma demeure avec un fouet aux cordes de scorpion. Si tu souhaites que je sois persuadé que tu as oublié, en revenant chez moi, les chagrins que, sous l'indice des repentirs, je t'ai causés autrefois, crebleu, ramène-leur avec toi, cortège sublime. Soutenez-moi, je m'évanouis. Les vertus offensées et leurs impérissables redressements. Je constate avec amertume qu'il ne reste plus que quelques gouttes de sang dans les artères de nos époques phtisiques. Depuis les pleurnicheries odieuses et spéciales, brevetées sans garantie d'un point de repère, des Jean-Jacques Rousseau, des Chateaubriand et des nourrices en pantalon aux poupons, Obermann, à travers les autres poètes qui se sont vautrés dans le livron impur, jusqu'aux songes de Jean-Paul, le suicide de Dolores de Ventimiglia, le corbeau d'Allah, la comédie infernale du Polonais, les yeux sanguinaires de Zorilla et l'immortel cancer, une charogne que peignait autrefois avec amour l'amant morbide de la Vénus hottentote, les douleurs invraisemblables que ce siècle s'est créé à lui-même, dans leur voulu monotone et dégoûtant, le rendu poitrinaire. Larves absorbantes dans leurs engourdissements insupportables. Allez, la musique! Oui, bonnes gens, c'est moi qui vous ordonne de brûler sur une pelle rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute aux lèvres de vermouth, qui répandant dans une lutte mélancolique entre le bien et le mal des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait partout le vide universel. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Le désespoir, se nourrissant avec un parti pris de ses fantasmagories, conduit imperturbablement le littérateur à l'abrogation en masse des lois divines et sociales et à la méchanceté théorique et pratique. En un mot, fait prédominer le derrière humain dans les raisonnements. Allez, et passez-moi le mot. L'on devient méchant, je le répète, et les yeux prennent la teinte des condamnés à mort. Je ne retirerai pas ce que j'avance. Je veux que ma poésie puisse être lue par une jeune fille de 14 ans. La vraie douleur est incompatible avec l'espoir. Pour si grande que soit cette douleur, l'espoir de 100 coudées s'élève plus haut encore. Donc laissez-moi tranquille avec les chercheurs. Abat les pattes, abat, chienne cocasse, faiseur d'embarras, poseur. Ce qui souffre, ce qui dissèque les mystères qui nous entourent, n'espère pas. La poésie qui discute les vérités nécessaires est moins belle que celle qui ne les discute pas. Indécisions à outrance, talents mal employés, perte de temps. Rien ne sera plus facile à vérifier. chanter à Damastor, Jocelyn, Rocambole, c'est puéril. Ce n'est même que parce que l'auteur espère que le lecteur sous-entend qu'il pardonnera à ses férons fripons, qui se trahit lui-même et s'appuie sur le bien pour faire passer la description du mal. C'est au nom de ces mêmes vertus que Franck a méconnues que nous voulons bien le supporter, ô saltimbanque des malaises incurables. Ne faites pas comme ces explorateurs sans pudeur, magnifiques à leurs yeux, de mélancolie, qui trouvent des choses inconnues dans leur esprit et dans leur corps. La mélancolie et la tristesse sont déjà le commencement du doute, et le doute est le commencement du désespoir. Le désespoir est le commencement cruel des différents degrés de la méchanceté. Pour vous en convaincre, lisez la confession d'un enfant du siècle. La pente est fatale une fois qu'on s'y engage. Il est certain qu'on y arrive à la méchanceté. Méfiez-vous de la pente. Extirpez le mal par la racine. Ne flattez pas le culte d'adjectifs tels que indescriptible, inénarrable, rutilant, incomparable, colossal, qui mentent sans vergogne aux substantifs qu'ils défigurent. Ils sont poursuivis par la lubricité. Les intelligents de deuxième ordre, comme Alfred de Musset, peuvent pousser rétivement une ou deux de leurs facultés beaucoup plus loin que les facultés correspondantes des intelligents de premier ordre, Lamartine et Hugo. Nous sommes en présence du déraillement d'une locomotive surmenée. C'est un cauchemar qui tient la plume. Apprenez que l'âme se compose d'une vingtaine de facultés. Parlez-moi de ces mendiants qui ont un chapeau grandiose avec des haillons sordides. Voici un moyen de constater l'infériorité de Musset sous les deux poètes. Lisez devant une jeune fille Rolla ou les nuits, les fous de Cobb, sinon les portraits de Gwynplaine et de Dea ou le récit de Théramène d'Euripide, traduit en vers français par Racine le Père. Elle tressaille, fronce ses sourcils, lève et abaisse les mains, sans but déterminé, comme un homme qui se noie. Les yeux jetteront des lueurs verdâtres. Lisez-lui la prière pour tous de Victor Hugo. Les effets sont diamétralement opposés. Le genre d'électricité n'est plus la même. Elle rit aux éclats, elle en demande davantage. De Hugo, il ne restera que les poésies sur les enfants, où se trouvent beaucoup de mauvais. Paul et Virginie choquent aux aspirations les plus profondes au bonheur. Autrefois, cet épisode qui broie du noir de la première à la dernière page, surtout le naufrage final, me faisait grincer des dents. Je me roulais sur le tapis et donnais des coups de pied à mon cheval en bois. La description de la douleur est un contresens. Il faut faire voir tout en beau. Si cette histoire était racontée dans une simple biographie, je ne l'attaquerais point. Elle change tout de suite de caractère. Le malheur devient auguste par la volonté impénétrable de Dieu qui le créa. Mais l'homme ne doit pas créer le malheur dans ses livres. C'est ne vouloir à toutes ses forces considérer qu'un seul côté des choses. Ô hurleur maniaque que vous êtes! Ne reniez pas l'immortalité de l'âme, la sagesse de Dieu, la grandeur de la vie, l'ordre qui se manifeste dans l'univers, la beauté corporelle, l'amour de la famille, le mariage, les institutions sociales. Laissez de côté les écrivains et funestes, Sand, Balzac, Alexandre Dumas, Musset, Duterail, Féval, Flaubert, Baudelaire, Lecomte et la grève des forgerons. Ne transmettez à ceux qui vous lisent que l'expérience qui se dégage de la douleur et qui n'est plus la douleur elle-même. Ne pleurez pas en public. Il faut savoir arracher les beautés littéraires jusque dans le sein de la mort. Mais ces beautés n'appartiendront pas à la mort. La mort n'est ici que la cause occasionnelle. Ce n'est pas le moyen, c'est le but qui n'est pas elle. Les vérités immuables et nécessaires qui font la gloire des nations et que le doute s'efforce en vain d'ébranler ont commencé depuis les âges. Ce sont des choses auxquelles on ne devrait pas toucher. Ceux qui veulent faire de l'anarchie en littérature, sous prétexte de nouveau, tombent dans le contresens. On n'ose pas attaquer Dieu, on attaque l'immortalité de l'âme. Mais l'immortalité de l'âme, elle aussi, est vieille comme les assises du monde. Quelle autre croyance la remplacera, si elle doit être remplacée? Ce ne sera pas toujours une négation. Si l'on se rappelle la vérité d'où découlent toutes les autres, la bonté absolue de Dieu et son ignorance absolue du mal, les sophismes s'effondreront d'eux-mêmes. S'effondrera, dans un temps pareil, la littérature peu poétique qui s'est appuyée sur eux. Toute littérature qui discute les axiomes éternels est condamnée à ne vivre que d'elle-même. Elle est injuste. Elle se dévore le foie. Les novissima verba font sourire superbement les gosses sans mouchoir de la quatrième. Nous n'avons pas le droit d'interroger le Créateur sur quoi que ce soit. Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur. Gardez cela pour vous. Si on corrigeait les sophismes dans le sens des vérités correspondantes à ces sophismes, ce n'est que la correction qui serait vraie. Tandis que la pièce ainsi remaniée aurait le droit de ne plus s'intituler fausse. Le reste serait hors du vrai, avec trace de faux, par exemple, conséquent nul, et considéré forcément comme non avenu. La poésie personnelle a fait son temps de jonglerie relative et de contorsion contingente. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, brusquement interrompu depuis la naissance du philosophe manqué de Pernet, depuis l'avortement du grand Voltaire. Il paraît beau, sublime, sous prétexte d'humilité ou d'orgueil, de discuter les causes finales, d'en fausser les conséquences stables et connues. Détrompez-vous, parce qu'il n'y a rien de plus bête. Renouons la chaîne régulière avec les temps passés. La poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n'a pas progressé d'un millimètre. Elle a reculé. Grâce à qui? Aux grandes têtes molles de notre époque. Grâce aux Famelettes, Chateaubriand, le Mohican mélancolique, Sénancour, l'homme en jupon, Jean-Jacques Rousseau, le socialiste grincheur, Anne Radcliffe, le spectre toqué, Edgar Poe, le mamelouk des rêves d'alcool, Mathurin, le compère des ténèbres, George Sand, l'hermaphrodite circoncis, Théophile Gautier, l'incomparable épicier, Lecomte, le captif du diable, Goethe, le suicidé pour pleurer, Sainte-Beuve, le suicidé pour rire, Lamartine, la cigogne larmoyante, Lermontov, le tigre qui rugit, Victor Hugo, le funèbre et chalavert, Mickiewicz, l'imitateur de Satan, Musset, le grandin sans chemise intellectuelle, et Byron, l'hippopotame des jungles infernales. Le doute a existé de tout temps en minorité. Dans ce siècle, il est en majorité. Nous respirons la violation du devoir par les porcs. Cela ne s'est vu qu'une fois. Cela ne se reverra plus. Les notions de la simple raison sont tellement obscurcies à l'heure qu'il est que la première chose que font les professeurs de quatrième quand ils apprennent à faire des vers latins à leurs élèves, jeunes poètes dont la lèvre est humectée du lait maternel, c'est de leur dévoiler par la pratique le nom d'Alfred de Musset. Je vous demande un peu, beaucoup. Les professeurs de troisième, donc, donnent dans leur classe à traduire en vers grecs 200 grands épisodes. Le premier, c'est la repoussante comparaison du pélican, et le deuxième sera l'épouvantable catastrophe arrivée à un laboureur. À quoi bon regarder le mal? N'est-il pas en minorité? Pourquoi pencher la tête d'un lycéen sur des questions qui, faute de n'avoir pas été comprises, ont fait perdre là à leurs hommes tels que Pascal et Byron? Un élève m'a raconté que son professeur de seconde avait donné à sa classe, jour par jour, ses deux charognes à traduire en vers hébreux. Ces plaies de la nature animale et humaine le rendirent malade pendant un mois qu'il passa à l'infirmerie. Comme nous nous connaissons, il me fit demander par sa mère. Et il me raconta, quoique avec naïveté, que ses nuits étaient troublées par des rêves de persistance. Il croyait voir une armée de pélicans qui s'abattaient sur sa poitrine et la lui déchiraient. Il s'envolait ensuite vers une chaumière en flammes. Il mangeait la femme du laboureur et ses enfants. Le corps noirci de brûlures, le laboureur sortait de la maison, engagé avec les pélicans un combat atroce. Et le tout se précipitait dans la chaumière qui retombait en éboulement. Et de la masse soulevée des décombres, oh cela ne ratait jamais, il voyait sortir son professeur de seconde, tenant d'une main son cœur, de l'autre une feuille de papier, où l'on déchiffrait, en trait de soufre, la comparaison du pélican et celle du laboureur, telle que Musset lui-même les a composées. Il ne fut pas facile au premier d'abord de pronostiquer son genre de maladie. Je lui recommandais de se faire soigneusement et de n'en parler à personne, surtout à son professeur de seconde. Je conseillai à sa mère de le prendre quelques jours chez elle, en assurant que cela se passerait. En effet, j'avais soin d'arriver chaque jour, pendant quelques heures, et cela se passa. Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases. Arrangez-vous. Les sentiments sont la forme du raisonnement la plus incomplète qui se puisse imaginer. Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuel.